dans les murs du théâtre La Passerelle, où nous sommes en présence de Loïc Guénin. On va parler de Web Limb Wire, on va parler de plein de choses. L'oreille est un muscle, je l'ai appris en préparant cette interview avec Hélène de La Passerelle. On va parler aussi d'un petit stage qui se profile, un stage sonore. Mais avant tout, Loïc, on va un peu présenter le Phare à Luciole.
Bonjour. Oui, le Phare à Luciole, c'est le nom de ma compagnie, en fait. C'est une compagnie qui existe depuis 15 ans. C'est un nom qui fait référence à Pasolini, mais pas seulement. C'était aussi une référence à l'écologie sonore, qui est quelque chose qui me concerne beaucoup, et qui fait donc référence aussi à l'écoute et au fait de la relation entre l'écoute, la lumière, la présence aux autres, etc. Donc cette compagnie, elle est centrée à Sceaux, dans le Vaucluse, en milieu rural. Et puis, cette compagnie, aujourd'hui, c'est vraiment un lieu de production, un lieu de résidence d'artistes, un label phonographique qui produit des disques et qui enregistre. Et puis, surtout, une compagnie qui produit et porte des spectacles et des créations autour d'une thématique centrale qui est les écritures contemporaines.
Alors, en préparant cette interview, je me suis dit, est-ce que Loïc n'est pas un paysagiste sonore? Vous parliez d'écologie, justement. Est-ce que vous pourriez vous qualifier de cette sorte?
En fait, le terme paysage sonore, il est apparu dans les années 60, parce que avec les premiers artistes qui ont commencé effectivement à faire ce qu'on appelle du field recording, enregistrer la nature et la diffuser et travailler avec ça. Après, de là à parler de paysagiste sonore, ça m'ennuie un petit peu le terme de paysagiste, parce que le paysagiste, il agence et on bascule du coup dans la nature, c'est-à-dire la version du monde sauvage contrôlée par l'homme. Et le paysagiste, voilà, il fait en sorte que les jardins dans la ville soient agencés de façon à ce qu'il y ait à la fois du vert, mais aussi des bancs pour les gens, qu'ils puissent se promener, que les gens puissent marcher, etc. Donc le paysagiste, c'est ça son travail. Moi, je travaille pas du tout comme ça. C'est-à-dire que moi, je prends le son du monde sauvage tel qu'il est et j'essaye de l'écouter pour ce qu'il est, c'est-à-dire le son pour sa matière. Ça me sert ensuite, effectivement, parfois, à agencer des pièces électroacoustiques, etc. Mais je ne cherche pas à le rendre, entre guillemets, acceptable pour l'homme. Le son, il est là. Et de toute façon, voilà, je le prends comme il est. Ce n'est pas une recherche esthétique au sens du beau. Après, le beau, c'est une grande question en art, mais en tout cas, je ne me pose jamais cette question-là. Je me dis jamais, il faut que je fasse une pièce jolie, qui plaise, par exemple. Je travaille en fonction de mon ressenti, de mon écoute et de ce qui m'est offert aussi par l'aléatoire, justement, du monde sonore.
De la matière première, naturelle.
Tout à fait. La plupart du temps, dans mon travail, c'est en tout cas comme ça que je prends le son. C'est-à-dire, le son, il est partout. Hein, le silence n'existe pas. Le silence, c'est juste une posture, une construction, un code qui nous permet de temps en temps de se dire « bon là, ça serait bien qu'on fasse du silence ». Mais en fait, on ne fait jamais du silence. C'est juste on se met d'accord que là, on essaye de faire le moins de bruit possible, mais il y a toujours du son. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'accueillir ce son comme un audio naturaliste ou comme un entomologiste va vraiment s'attacher à regarder toutes les plantes, toute la faune présente, etc., analyser tous les insectes présents dans un environnement donné. Moi, je vais faire la même chose avec les sons.
À ce propos, justement, on va parler d'Henri David Thoreau, Walden ou La vie dans les bois. C'est une source d'inspiration?
Alors Walden, oui, c'est un ouvrage que j'ai découvert quand j'étais au lycée, donc ça commence à faire, et qui me suit depuis, en fait, que j'ai jamais cessé d'avoir avec moi, c'est-à-dire qu'il est toujours dans ma valise. C'est quelque chose qui est vraiment, qui fait partie aujourd'hui de moi. Donc c'est ce philosophe américain qui, en 1850, décide de partir vivre dans une cabane quelque temps, une cabane autour d'un terrain que lui a prêté son ami Emerson, qui est un grand philosophe aussi, et finalement il va y passer plus de deux ans, deux jours, et il va écrire tous les jours un journal qui va être publié et qui va devenir ensuite ce livre aujourd'hui culte et qui revient beaucoup à la mode, puisqu'aujourd'hui on parle beaucoup d'écologie, de s'attacher aussi au monde qui nous environne, etc., de faire attention à l'impact de l'homme, enfin, et tout ça est très bien, mais tout ça était déjà mis en avant par Thoreau en 1850. Et du coup, ce qui m'intéresse, c'est justement cet aller-retour permanent que je peux faire entre son écrit à lui, sa posture à lui de philosophe, de regard sur sa société de l'époque, et puis le monde dans lequel on évolue et on vit aujourd'hui. Et du coup, c'est vrai que voilà, j'ai imaginé un projet d'écriture de pièces en partitions graphiques, c'est-à-dire des partitions qui sont écrites à partir de codages que je prends dans les architectures que je traverse, en me référant vraiment et en m'appuyant sur la posture de Thoreau. Donc c'est un projet qui se nomme Walden, entre crochets, le nom du lieu concerné.
À ce propos d'ailleurs, concernant toujours ce fabuleux bouquin, vous l'avez depuis des années dans votre besace. Vous arrive-t-il de relire des passages qui ne vous ont pas parlé à la première lecture ou à la seconde ?
Ah oui, de toute façon, c'est vraiment le genre d'ouvrage qu'on peut, je pense, lire et relire toute sa vie et qu'on va comprendre différemment à chaque étape. C'est-à-dire que ce livre, je l'ai lu la première fois, j'avais 17 ans. Aujourd'hui, j'en ai 42, donc c'est évidemment, c'est pas la même chose. J'ai pas la même relation au monde, la même relation aux autres, la même relation à moi-même, les mêmes questionnements, voilà. Et du coup, évidemment, je le lis aujourd'hui complètement différemment de comme j'ai pu le lire à l'époque. Mais et ça continuera, je pense, encore longtemps. Mais c'est ça la qualité d'un écrit philosophique quand il est aussi fin, c'est qu'il ne donne aucune réponse, mais il soulève plein de questions. Et donc, selon l'état dans lequel on est quand on le lit, les questions ne sont jamais les mêmes et les réponses qu'on s'apporte non plus.
C'est à nous à broder et à composer selon ces écrits, finalement.
Bah, c'est une ouverture à la réflexion, en fait, tout simplement. Donc, c'est voilà, comme il y a d'autres gens qui m'influencent énormément, comme John Cage peut le faire avec sa façon d'écouter les sons, d'écouter le monde, de proposer des modes d'opération aléatoires dans la composition, etc. C'est pareil, c'est quelque chose qui à chaque fois est à réinventer et fonctionne à chaque fois. Si on suit vraiment ce processus et qu'on est dans son état d'esprit, ça fonctionne à chaque fois. C'est quand même assez merveilleux.
Et ce qui fonctionne à chaque fois, c'est votre collaboration avec le théâtre La Passerelle. On va parler un peu de vos aventures avec le théâtre. Ça fait depuis combien de temps déjà ?
On vient de réfléchir et de se dire que oui, c'est vrai que la première fois, c'était pour un spectacle qui s'appelait « Marcher dessus le paysage ». C'était une commande du théâtre de La Passerelle pour un curieux de nature. Ce format très très chouette, proposé donc par Philippe Ariano et Sonia Kechichian, qui propose à un artiste d'investir un lieu dans l'espace des paysages ici, qui sont quand même grandioses, et de penser à un geste artistique dans ce lieu. Et donc j'avais imaginé un projet avec deux danseuses, Nacera Bellaza et Dalila Bellaza, et puis un photographe, Vincent Baume, et un musicien, un guitariste qui s'appelle Serge Tessoguet, avec lequel je collabore sur un projet d'écriture graphique par rapport à un paysage et de cheminement d'un public qui traverse un lieu, c'était au col de Moissière. Et donc ça, je pense que c'était il y a 2 ans. Et depuis, en tout cas, ça c'était le premier geste, mais c'est vrai que ce geste, il a déjà nécessité pour moi de venir plusieurs fois sur le territoire pour le goûter, pour l'appréhender, pour y passer du temps. Et du coup, de là est née pas mal de discussions. Elles sont nées pas mal de discussions autour de l'écoute, qui est quand même la grande question qui habite mon travail, et la question de la relation aussi à ce qu'on appelle les musiques contemporaines ou les musiques exploratrices, les musiques nouvelles. Il y a plein de termes, et ça prouve le fait qu'il y a plein de termes qu'en fait on ne sait pas trop bien comment les définir, on ne sait pas trop bien où les ranger. Et du coup, voilà, depuis, c'est instauré une sorte de partenariat avec la scène nationale pour lequel je suis ravi. Avec notamment par exemple ces projets qui s'appellent les Faire Ouïr et Dire.
Parlons de cette aventure aussi avec un audio naturaliste.
Oui, c'était l'année dernière, on a proposé une balade sonore à l'écoute du paysage, du monde sauvage, avec donc Fernand Desroussen, qui est effectivement audio naturaliste. C'est lui-même qui a inventé ce terme qui est aujourd'hui utilisé pour tous ces gens qui sont quand même nombreux malgré tout et qui s'intéressent au son de la nature, c'est-à-dire audio-naturaliste, c'est voilà, l'audio et la nature. Alors la nature, il n'aime pas ça, Fernand, ce terme nature, il dit aussi le monde sauvage, donc aujourd'hui je pense peut-être qu'il changerait encore de terme. Audio-sauvagiste, je ne sais pas. En tout cas, c'est quelqu'un qui parcourt le monde entier depuis maintenant 35 ans, qui ne s'arrêtera, je pense, que quand il sera mort, et qui parcourt le monde entier avec comme unique outil son oreille, et qui enregistre tous les sons de la faune et parfois même de la flore, le bruit des vents dans certaines essences d'arbres, etc., dans le monde entier. Et qui les répertorie, les classifie et les connaît sur le bout des doigts. Et donc c'est quelqu'un avec qui traverser un paysage est toujours extraordinaire, parce que lui, il a une écoute, une approche assez scientifique. Il va pouvoir, à l'écoute, tout de suite entendre combien y a-t-il de sortes d'oiseaux, est-ce que c'est un mâle, est-ce qu'on est en période de couvaison, etc., etc., les insectes, etc. Et moi, je vais avoir une écoute plus artistique, sur les plans sonores, sur la construction, sur la matière. Et du coup, notre relation est assez intéressante pour ça. Donc, on a proposé voilà, cette balade où on a invité des gens, c'était à l'abbaye de Boscodon, à faire une petite promenade à l'écoute du paysage.
On va parler également de A Web, A Limb, A Wire. Composition pour flûte, clarinette, alto, violoncelle, percussion, électroacoustique et multidiffusion. Pas mal de choses, on va un peu resituer ce que c'est tout ça. Et puis aussi ces histoires de coussins et d'instruments à base de, on pourrait dire, de matière.
Alors ça, c'est une création qui va être jouée le 27 mars, donc très prochainement. C'est une reprise puisque la pièce a été créée à l'Arsenal de Metz où je suis actuellement compositeur en résidence. Elle a été créée le 15 janvier. C'est une pièce écrite donc pour effectivement Norg, qui est ce duo avec lequel je travaille, avec lequel on était hier encore en concert ici, qui est un duo de musique électroacoustique, qui travaille sur la matière à partir de pédales d'effets fabriquées par nous-mêmes, d'ordinateurs de sons transformés. Donc c'est vraiment, on est proche de la noise, du drone, de ces esthétiques un petit peu plus musique expérimentale. L'ensemble L'Instant Donné, qui est un ensemble basé à Montreuil, qui est un ensemble de musique contemporaine, qui est aujourd'hui un des ensembles français les plus renommés pour jouer la musique de création. Donc pour 5 instrumentistes, et là j'ai écrit vraiment une partition qui dure 42 minutes, qui emmène le public en fait depuis le fond des océans, ce qu'on appelle les tranchées, les endroits où l'homme n'a pas encore pu aller puisqu'il y a trop de pression, un endroit qu'on ne connaît pas, qui est un noir qu'on ne connaît pas puisque tellement il est profond. On sait qu'il y a de la vie mais on ne sait pas trop exactement quels organismes peuvent vivre là-dedans. Et donc ça part de ce fond des océans pour remonter jusqu'à ce qu'on appelle la zone libre, qui est la zone située juste sous la surface de l'eau, donc éclairée. Donc en 5 mouvements, on va remonter. Et donc effectivement, on invite les gens à une écoute immersive, c'est-à-dire qu'ils vont être invités à rentrer dans un dispositif, dans une boîte noire, aménagée avec des coussins, les gens s'installent, s'allongent et écoutent cette pièce qui dure 42 minutes, qui est très douce et qui est une remontée comme ça pendant 42 minutes, où là c'est une musique vraiment écrite.
Pourquoi une boîte noire ?
Boîte noire au sens où en fait tout le monde va se retrouver au plateau, c'est-à-dire que les gens ne vont pas être assis en mode d'écoute classique sur des sièges à regarder des artistes qui sont sur un plateau. Là, ils vont être sur le plateau avec nous. Et cela parce que la pièce est écrite en multidiffusion. Donc la multidiffusion, ça veut dire qu'en fait le son est diffusé par un système d'enceinte. Il y a 16 haut-parleurs sur le plateau. Il y a 2 couronnes de 8 haut-parleurs, une couronne centrale et une couronne extérieure. Et le son se déplace. C'est-à-dire que dans la partition est aussi composé le déplacement du son. Donc j'ai écrit aussi pour que tel son passe de l'enceinte 1 à toutes les enceintes et puis bascule en ping-pong de la 4 à la 3 et puis revienne parce que ça crée des effets évidemment d'écoute et c'est toujours ça qui m'intéresse. Et donc les gens sont invités à rentrer dans cette boîte noire, donc vraiment une ambiance très particulière avec une création lumière aussi très très belle de Vincent Baume qui est photographe avec qui je travaille beaucoup. Et les gens vont être amenés en fait, à suivre un processus comme ça d'éclairage et d'écoute.
Ça permet d'être plus attentif que d'être dans le noir ?
Alors hier soir, on donnait justement donc, un Fairway Ready, on pourra en parler, c'est un autre projet que je mène avec la scène nationale. Et justement, celui d'hier soir était là-dessus, ça s'appelait Écouter le noir. Et on a invité les gens à justement vivre l'expérience de traverser le son dans un moment où la lumière disparaît, et puis dans le noir complet, pour revenir. Oui, il y a une relation très forte entre la lumière et le son. Ce sont 2 vibrations qui se déplacent dans l'air, grâce à l'air. Et effectivement, quand on invite les gens, qu'on les accompagne, parce que ce n'est pas évident, mais qu'on les accompagne vraiment à aller vers ce geste de fermer les paupières, par exemple, eh bien, l'écoute n'est pas la même. Elle est beaucoup plus concentrée, elle est beaucoup plus ouverte, elle est beaucoup plus diffuse. C'est comme quand je suis avec le Fernand Desroussen et qu'on écoute la nature, qu'on va écouter des criquets ou des grillons. Il y a des techniques toutes simples, comme par exemple respirer la bouche ouverte. Tous les audio-naturalistes font ça. Si on respire bouche fermée, on produit nous-mêmes un son dans le nez qui en fait efface pas mal de fréquences. On s'en rend pas compte, hein, parce que c'est un son qu'on n'écoute plus. Mais en fait, il est très fort. Si on ouvre la bouche et qu'on respire bouche ouverte, ce son disparaît. Et d'un seul coup, le paysage sonore s'ouvre. Et ben voilà, c'est des tout petits trucs comme ça. C'est des trucs pour écouter, pour mieux écouter. Et là, c'en est un aussi.
À notre époque, on est envahi de sons, finalement, à droite, à gauche, dans les médias, les bruits de la nature ou alors de la ville. Mais ce n'est pas forcément pour cela que l'oreille est très affûtée.
Je dirais même le contraire. Je dirais que c'est pour cela que l'oreille est de moins en moins affûtée. En fait, effectivement, on est dans un monde de plus en plus sonore. Il y a des sons aujourd'hui partout. Mais 99,2%, c'est une étude menée par des chercheurs américains, 99,2% des sons qu'on entend dans notre journée d'humain sont issus des 3 mêmes accords. Vous imaginez la pauvreté de ce qu'on écoute en permanence. Et l'oreille, effectivement, c'est un muscle. L'oreille, elle agit en fonction de ce qu'on connaît, elle apprend, elle se développe, elle se transforme, etc. Donc plus elle entend de choses, plus elle est nourrie. c'est comme goûter des plats. Plus on affine notre palais, plus on est capable ensuite, voilà, comme les gens qui maîtrisent par exemple le vin, l'œnologie, etc. Ils goûtent tout un tas de choses pour pouvoir après, avec juste une goutte de vin, sentir les saveurs florales, etc. Bon, quand on n'y connaît rien, on goûte, on dit oui, il est fort, il n'est pas fort, bon, voilà. Et ben, c'est pareil pour le son, en fait. Et aujourd'hui, tous les sons qui nous sont proposés sont des sons plutôt fonctionnels, c'est-à-dire qui ont une fonction, qui nous apportent une information. Ensuite, on met de la musique dans les magasins, on met de la musique dans les ascenseurs, on met la radio. Mais 99,2%, c'est la même chose, c'est trois accords. Donc, ben, notre oreille, elle se réduit. Elle réduit son champ d'écoute, son champ d'analyse. Et finalement, bah, du coup, quand on écoute quelque chose qu'on n'est pas habitué à entendre, on dit tout de suite « Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Parce que ça ne nous rassure pas, ça nous dérange quelque part, parce qu'on manque de culture, au sens propre du terme.
Tout à l'heure, vous disiez que le silence n'existe pas ?
Tout à fait, oui. En fait, le silence complet, c'est-à-dire le silence de l'espace, il existe dans l'espace parce qu'il n'y a pas d'air. Mais tant qu'il y a de l'air, et donc tant qu'il y a de la vie, parce que nous, on a besoin d'air pour vivre, il y a du son. On est incapable, nous, humains, et les animaux, c'est pareil, enfin voilà, être vivant, de vivre dans un monde de silence. Ce n'est pas possible. Donc en fait, même si on se retrouve dans une chambre, et John Cage raconte ça très bien, il a fait cette expérience, parce qu'il se posait vraiment cette question du silence, donc il a fait l'expérience d'aller dans une chambre, ce qu'on appelle une chambre anéchoïque, qui est une pièce dans des laboratoires de recherche sonore, qui est fabriquée pour justement qu'il y ait le moins de son possible, le moins de résonance possible, le moins de réverb possible. Ça sert par exemple pour tester des instruments de musique, des acoustiques de matière, etc. Il y en a une à l'IRCAM à Paris. Voilà. Donc il a été dans cette chambre, et la porte s'est fermée, et il était tout seul, il ne faisait aucun bruit, il ne bougeait pas. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, il a entendu sa pression nerveuse, les battements de son cœur, le sang dans ses artères. En fait, le silence, il n'existe jamais. On a tous fait cette expérience quand on est dans le lit le soir chez nous, qu'on essaye de se détendre et puis que d'un seul coup, on entend... Et si on commence à se concentrer là-dessus, ben, ça prend d'un seul coup une place énorme. On se dit, mais en fait, j'entends des choses partout. Et donc, il y a toujours du son, y a tout le temps, où qu'on soit. Et quoi qu'on fasse, il y a toujours du son. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de me dire, ce son, que certains appellent du bruit, que certains appellent des interférences, etc., pour moi, c'est de la musique. Parce que je décide que ça en soit. Intentionnellement, je me dis, tiens, je vais écouter ces sons comme une pièce sonore. Et d'un seul coup, bah, le monde s'ouvre différemment.
Dans ce cas de figure, c'est la musique du corps, finalement. Vous pourriez être amené à faire quelque chose un jour sur la musique de... du corps humain, tout simplement, avec des prises de son via des concepts un peu de mesures médicaux.
Oui, complètement. Ouais. Ça a déjà d'ailleurs été expérimenté par des artistes. Il y a des artistes qui ont fait aussi, qui font des concerts où la musique vient du fait de faire la cuisine, par exemple. Voilà, quand on cuisine, on ne fait pas forcément attention au son parce qu'on est dans la cuisine. Peut-être on a la radio ou on pense à autre chose. Mais en fait, si à un moment donné, on se dit « Tiens, je vais écouter ce qui se passe quand je coupe une gousse d'ail et que je l'affine, clac, 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 dans tous les sens, et puis que je la jette dans la poêle, et puis qu'ensuite j'allume la hotte, et puis qu'ensuite... » Bref, tout ça, ce sont des sons qui deviennent de la musique si je les écoute comme étant de la musique. Je raconte souvent cette histoire que quand on est artiste, on est souvent dans des gares ou des aéroports à attendre entre deux trains, entre deux transferts. Et donc, si on fait juste attendre, ça peut vite devenir quand même très fatigant et usant. Mais si on se met à se dire que tous ces moments-là peuvent être des concerts potentiellement magiques, aléatoires et uniques, ce qui est mon cas, bah, ça devient super, en fait. On se dit « Ah, chouette, là, j'ai une heure d'attente, je me pose dans une gare et j'écoute. »
Ce qui pourrait être pénible dans une gare pour pas mal de personnes, vous avez une lecture, une analyse qui est autre.
Bah c'est pas une analyse, justement. J'essaye que ça n'en soit pas une. Hein. J'essaye juste de me dire, je suis dans une gare, bon bah voilà, je me pose. Et puis maintenant, j'écoute ça comme si je venais de me mettre un disque. Et j'écoute. Donc je ne cherche surtout pas à analyser. Mais c'est tellement sonore, une gare. Il se passe tellement d'événements sonores dans tous les sens. Il y a des plans sonores, il y a des graves, il y a des aigus, il y a des infrabasses, il y a quelque chose qui traverse, il y a de la multidiffusion, parce que les gens passent devant vous avec les valises, clac, 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 le train au loin, ça siffle, machin, les oiseaux qui s'envolent, enfin, c'est énorme. Et d'un seul coup, bah, j'ai un concert pour moi tout seul, et on peut faire ça n'importe quand et n'importe où, c'est ça qui est génial.
Donc finalement, on peut se détendre.
On peut se détendre, mais pour moi, la musique contemporaine, les musiques exploratrices, sont vraiment des musiques qui, au contraire, travaillent sur le bien-être de l'humain, sa relation à l'écosystème, à l'environnement. Et ça, c'est quelque chose de primordial. Beaucoup plus que les musiques qu'on dit être faites pour divertir. Et qui, moi, me mettent dans un état, c'est pas possible. Enfin, voilà, je suis incapable d'écouter la radio, ça marche pas.
Peut-être Mistral, alors.
Voilà, il va falloir que j'écoute votre programmation musicale.
On verra bien. On va parler de ce stage faire, ouïr et dire. Alors là, c'est un peu plus tôt. Hein. C'est le samedi 23 mars de 10h à 16h. Toujours dans les murs du théâtre La Passerelle. Comment ça va se passer ?
Alors, du coup, c'est tout à l'heure, on parlait des faire, ouïr et dire et du fait qu'hier soir, on était sur écouter dans le noir. Et ça fait partie aussi. Ça, faire, ouïr et dire, c'est un projet. Faire, c'est expérimenter, c'est faire. Ouïr, c'est vraiment être dans l'écoute, vivre l'écoute. C'était le cas d'hier. Et puis dire, ça va être des petits moments plus de conférences, d'échanges, de parler comme on le fait là autour d'un sujet. Donc cette année, on a fait un ouïr hier. Et puis là, il s'agit d'un faire. Puisque là, l'idée, c'est d'inviter les gens, une douzaine de personnes, à vivre avec moi une posture d'artiste, un processus qui est celui du field recording. Donc justement, de comment on peut travailler une pièce sonore à partir de ce qu'on entend. Donc l'idée, c'est d'accompagner les gens. Alors, je suis avec eux toute la journée, 6 heures, donc on a le temps, c'est bien d'expérimenter vraiment les choses. D'abord, d'être dans l'écoute. Comment moi, en tant que compositeur, artiste, sonore, j'écoute, justement, on en parlait pour la gare, mais là, on le fera dans Gap. Donc voilà, quels sont les petits outils tout simples à connaître pour aller écouter les choses, noter, répertorier, commencer à prendre des repères. Ensuite, comment on enregistre avec l'appareil avec lequel vous êtes en train de m'enregistrer, ce sera la même chose mais avec un casque sur les oreilles, donc ça devient une écoute augmentée, parce que quand on a le casque, on n'entend plus du tout de la même façon que sans casque. Comment je vais ensuite classifier les sons, qu'est-ce que je garde, comment je le trie, comment je l'affine un petit peu, comment je le traite au niveau d'un logiciel. Puis ensuite, à partir de ce son brut, qu'est-ce que je peux créer au niveau d'une pièce électroacoustique qu'on jouera pour finir la journée tous ensemble.
Il reste encore des places, je crois. Hélène ?
Oui, il reste encore quelques places, 2-3 places. On doit être à 9-10 personnes à peu près.
L'actuel micro, Hélène, il y a d'autres actions aussi qui sont menées, notamment avec des établissements scolaires par rapport au son.
Oui, le fait que Loïc Guénin soit sur notre territoire permet aussi, enfin sa présence permet aussi de développer un certain nombre de projets, notamment avec des lycées. Il y a eu il est intervenu dans le cadre d'un projet avec une classe de lycée autour du son et de la physicalité du son. Et puis cet après-midi, il fait aussi un atelier avec les élèves du collège qui sont dans la classe CHAM, donc qui est la classe horaire aménagée musique. Autour des partitions graphiques. Et puis l'année dernière, il y avait aussi un autre stage pour une autre classe des classes CHAM, aussi autour des partitions graphiques. Mais voilà, l'idée, c'est toujours de travailler aussi sur différents types de publics, aussi bien des scolaires que voilà, des gens qui sont intéressés par le son, par la fabrication autour de cet atelier, ou des curieux qui veulent faire une expérimentation comme hier.
Très bien, Loïc Guénin, merci de nous avoir accordé ce moment sonore, radiophonique. Qu'est-ce qu'il va se passer par la suite? Retour à Sceaux, du côté du Mont Ventoux, à écouter le Mont, peut-être?
Alors, ça évidemment, j'essaie de le faire le plus souvent possible. Là, ce qui se passe juste après, donc cet après-midi, donc je suis avec cette classe de collège avec laquelle on va écrire une pièce et la jouer en fin d'après-midi. Et puis à partir de demain, on enchaîne donc dans notre lieu qui s'appelle Le Milieu, à Sceaux, sur une résidence pour un nouveau projet qui s'appelle Le Birdcage Play with Toasting Forks. C'est une phrase de Thomas Bichmann qui parlait du clavecin comme ça, qui disait le clavecin, c'est cet instrument qui sonne comme une cage à oiseaux jouée avec des pinces à rôtir. Ce qui est assez drôle et parfois assez vrai. Et du coup, on est parti de cette phrase et je travaille avec un claveciniste qui s'appelle Bertrand Cuillet, qui est vraiment quelqu'un de très chouette, qui est le directeur de l'ensemble Caravansérail et qui enregistre en ce moment l'intégrale de Couperin chez Harmonia Mundi, et avec Éric Brochard et Vincent Baume, le photographe, sur un projet qui va faire traverser le clavecin de son endroit, qui est celui de la musique ancienne et musique baroque, au nôtre, qui est celui des musiques exploratrices et contemporaines. Donc voilà, c'est un projet qui est coproduit par l'Arsenal à Metz, l'abbaye de Noirlac et le Festival de Chaillol.
Très bien, le Festival de Chaillol qu'on salue également. Et puis probablement on vous retrouvera avec le Théâtre La Passerelle pour d'autres projets à venir.
Tout à fait, on est en cours de discussion et de continuité dans une relation vraiment qui est très très chouette et je pense qu'il ne va pas s'arrêter comme ça.
Merci à vous deux, à bientôt.